Bonjour, c'est Michel de Bretagne. Voilà, j'écoute une émission sur France Inter qui parle de comment être résilient par rapport à la crise énergétique et non d'un chien, mais pourquoi est-ce qu'on ne développe pas les chauffe-eau solaires massivement en France? Ça fait des décennies que cette technique est simple, qu'elle est connue, qu'elle marche très très bien. On pourrait minimum chauffer l'eau des habitations, d'un tas d'endroits d'ailleurs avec des chauffe-eau solaires. C'est pas de l'électronique, c'est des choses simples. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? Voilà, ça me met en colère. Merci.
Bon, je m'appelle Jean-Claude et j'habite à Paris. Vous êtes en train de parler du pollen et tout. Moi, j'en souffre pas, mais disons que habitant dans une rue où il y a beaucoup d'arbres, notamment des tilleuls, qui produisent pas mal de pollen, je suis au 7e étage et quand j'ouvre ma fenêtre, eh bien, je me prends tout ce pollen. Ça me fait éternuer. Voilà, au revoir et merci pour l'émission.
Bonjour, je suis Anaïk. J'habite à 20 km au sud de Nantes et depuis un mois, je vais au travail à Nantes en vélo. Et ce n'est que du bonheur. N'hésitez pas.
Bonjour, c'est Christine de la région de Dieppe. Je souhaite interpeller tous les auditeurs sur le lien entre le nucléaire et le réchauffement climatique. J'attire donc votre attention sur la revue L'Écologiste, spécialement le numéro 59, pour un article qui s'appelle « Le nucléaire menacé par la montée des eaux ». Il est signé par M. Paul Dorfman, qui est chercheur à l'Université du Sussex. Avec la multiplication prévisible d'événements climatiques extrêmes, les installations nucléaires actuelles et planifiées, situées sur les côtes et à l'intérieur des terres, présenteront des risques majeurs. Il est inquiétant que 41% des installations nucléaires mondiales soient situées sur une côte maritime. La réalité est que le nucléaire, loin de nous aider à résoudre le problème climatique, est un facteur aggravant. Il est nécessaire de revoir de façon radicale et à la baisse la place du nucléaire dans le zéro carbone. Merci à vous. À bientôt.
Et merci Christine pour votre message qui plante donc le décor pour notre dossier qui va suivre sur nucléaire et climat. Et puis pour répondre à Michel en début de répondeur qui était très en colère parce qu'on n'entend pas assez parler des chauffe-eau solaires, eh bien nous demanderons rien que pour elle à notre invité ingénieur en énergie ce qu'il en pense dans quelques minutes. 01 56 40 45 45, c'est votre numéro de téléphone, celui du répondeur de la Terre au carré. On l'a vu ces derniers mois, l'urgence climatique a changé la donne concernant le débat autour du nucléaire, car c'est au regard du climat que se pose aujourd'hui la question de la place de l'atome dans la production d'énergie. Les partisans du nucléaire font valoir que cette énergie n'émet pas ou très peu de gaz à effet de serre, ce qui la rendrait incontournable pour endiguer le réchauffement planétaire. Mais la filière nucléaire est-elle réellement bonne pour le climat? D'autres critères que les émissions de gaz à effet de serre sont aussi à analyser et à prendre en compte pour dire si cette énergie est réellement efficace pour décarboner la consommation énergétique de notre pays. C'est le dossier cet après-midi de la Terre au carré avec nos invités pour en parler. Hervé Kempf, rédacteur en chef du site reporter.net, le quotidien de l'écologie, et Maxence Cordier, ingénieur dans le secteur de l'énergie, membre du comité des experts du site Connaissance des énergies. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Hervé Kempf, vous signez pour Reporter une série d'articles justement dans lesquels vous montrez que le nucléaire n'est clairement pas bon pour le climat. Vous allez bien sûr nous expliquer pourquoi. Maxence Cordier, je précise que vous êtes ingénieur au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, mais qu'aujourd'hui vous ne parlez pas au nom de votre organisme. Vous avez publié de votre côté de nombreux articles dans lesquels vous expliquez que l'énergie nucléaire est nécessaire pour justement limiter le dérèglement climatique. Et puis demain sortira aux éditions Tana un ouvrage sur les énergies que vous signez en collaboration avec Isabelle Brockmann. On se retrouve donc dans un instant pour essayer de comprendre donc si le nucléaire est vraiment bon ou pas pour le climat. Vos messages, vos questions, la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec les notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On parle de quoi donc? Camille passe au vert à 14h30.
Mais qui va se gaver de chocolat tout ce week-end? C'est nous. Et qui ne sait pas vraiment d'où il vient, comment il est cultivé, dans quelles conditions? C'est encore nous.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Sophie Vaux, aujourd'hui avec à la technique Clément Vuillet.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Aujourd'hui se lève l'aube d'un nouvel âge.
née de la découverte et de l'utilisation de la plus puissante source d'énergie de l'histoire du monde, l'énergie qui peut être dégagée à partir de l'atome. Non contrôlée, cette puissante source d'énergie est aussi la plus destructive. Mais en totale coopération internationale, toutes les nations souhaitent justement la contrôler afin de fournir de l'énergie pour le bien de l'homme, pour la prospérité du monde futur, un monde qui ne connaîtrait plus la famine, les maladies. Aux États-Unis, des savants conçurent et réalisèrent la première centrale électronucléaire du monde.
Voilà, le lyrisme des archives de l'INA, 1956, pour introduire notre sujet. Le nucléaire est-il bon pour le climat? Question posée donc à Hervé Kempf pour reporter.net et Maxence Cordier, ingénieur donc dans le secteur de l'énergie. Hervé, vous suivez depuis de très nombreuses années le dossier donc du nucléaire en France et à l'étranger. C'est vrai qu'on assiste depuis maintenant quelques temps à un retour très fort de cette question dans le débat politique. Est-ce que c'est clairement la crise climatique qui a remis le nucléaire au centre des discussions?
Oui, tout à fait. À partir des années 2000, dès les années 89, dès que la question climatique est arrivée dans le débat public, les promoteurs du nucléaire ont jugé que c'était un argument qui pouvait fonctionner. Donc ça joue tout à fait. Peut-être qu'on peut dire que c'est selon un raisonnement qui, au demeurant, est exact, c'est-à-dire le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, donc n'émet pas de CO2, le CO2 est mauvais pour le climat, donc le nucléaire est bon pour le climat. Mais la question, c'est que on pourrait dire ça aussi des énergies nouvelles qui n'émettent pas de CO2, le CO2 est mauvais pour le climat, donc les énergies nouvelles sont bonnes pour le climat, et aussi des économies d'énergie, elles n'émettent pas de CO2, le CO2 est mauvais pour le climat, et donc les économies d'énergie sont bonnes pour le climat. Donc une fois qu'on a ces trois options sur la table, il faut se dire, y a d'autres critères qui peuvent jouer.
Justement contre le climat, hein, c'est exactement ce que vous faites finalement dans cet article, hein, au-delà des émissions de gaz à effet de serre.
Je crois que l'enjeu essentiel, c'est effectivement la préoccupation climatique vient depuis les années 80. Hein, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a été créé en 1988. La tension des scientifiques n'a cessé de monter, le mouvement écologiste aussi l'a accompagné. Le GIEC a rapport après rapport confirmé l'importance, et maintenant on est effectivement en plus dans une urgence, c'est-à-dire que c'est d'ici 2030 avant 2050, qu'il faut vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre à échéance très courte.
Maxence Cordier, un petit dézoomage à l'échelle de la planète. Le nucléaire semble rester quand même une exception française dans le mix énergétique. À l'échelle mondiale, est-ce que ça pèse beaucoup moins lourd que dans notre pays? Qu'est-ce que ça représente?
Ça pèse moins lourd dans notre pays, à l'échelle mondiale que dans notre pays, mais ça reste quand même la deuxième énergie bas carbone derrière l'hydroélectricité. En fait, je pense que avant d'entamer le débat sur le nucléaire, il faut déjà rappeler ce qu'est l'énergie. L'énergie, c'est ce qui permet de produire des choses pour rendre notre environnement plus sûr, plus confortable, etc. Pendant l'essentiel de son histoire, l'humanité n'a eu accès qu'à la force humaine et animale, donc ce qu'on pouvait produire était limité par le nombre d'heures dans une journée. Au tournant des années 1000, les moulins à vent et à eau ont commencé à se développer partout en Europe. Ça a permis de libérer des bras, d'avoir un premier exode rural, un développement de l'artisanat, une certaine croissance, mais ça restait limité. Ce qui s'est passé 19e siècle, c'est pas la découverte des combustibles fossiles qui sont connus depuis l'Antiquité. Les feux grégeois, par exemple, étaient des bombes incendiaires au pétrole. Ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est la découverte d'une machine absolument fabuleuse qui permet de convertir de l'énergie thermique, il suffit de brûler tout et n'importe quoi, du pétrole, du gaz, du charbon, du bois, et de le convertir en énergie mécanique, c'est-à-dire en mouvement. Et en fait, à partir du 19e siècle, on a pu utiliser de plus en plus d'énergie fossile pour produire de la chaleur qu'on convertit grâce à cette machine en mouvement. Et donc là, on a commencé à consommer chaque année plus de charbon. Au début du 20e siècle, on a ajouté le pétrole, ensuite le gaz, ensuite le nucléaire. Et encore aujourd'hui, c'est essentiellement 80% des énergies fossiles qu'on consomme au niveau mondial, pétrole, gaz, charbon.
Voilà, et même en France, même avec le nucléaire, on est encore très dépendant des énergies fossiles. Hein. C'est ce que vous rappelez d'ailleurs dans vos articles.
Hein. 60% de l'énergie consommée en France est d'origine fossile.
Hervé Kempf, alors, vous détaillez dans cette série d'articles justement ce qu'il faut prendre en compte en dehors précisément des gaz à effet de serre pour décider finalement si la relance du nucléaire a un réel intérêt pour le climat. C'est toute la question en ce moment. Ces critères portent sur la dangerosité de cette filière, sur sa faisabilité pour s'inscrire justement dans le calendrier climatique, sur son coût. On va commencer par la question des accidents nucléaires avec ce petit medley.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrirons cette édition par l'incident ou l'accident nucléaire aux États-Unis. Une panne s'est produite dans la centrale nucléaire Three Mile Island à Harrisburg. C'était mercredi soir et depuis lors, il y a eu plusieurs autres rejets de vapeur d'eau radioactive sans qu'on puisse les dominer, c'est-à-dire les empêcher.
accident survenu dans une de ses centrales nucléaires en Ukraine, tout près de Kiev.
Il est possible que le cœur du réacteur ait fondu, ce qui serait l'accident maximum. Il semble en tout cas qu'une fuite importante de produits radioactifs ait eu lieu.
Il était 16h aujourd'hui au Japon, 8h en France, quand soudain, une explosion dans le premier des bâtiments réacteurs de la centrale nucléaire numéro 1 de Fukushima.
Voilà, 1979, 86, 2011, trois événements qui ont marqué à tout jamais l'histoire du nucléaire dans le monde. Et vous dites dans cet article, justement avec M, de reporter, que le bilan de ces accidents, en particulier Tchernobyl et Fukushima, ont été largement sous-estimés.
Oui, surtout celui de Tchernobyl qui a nourri un débat et qui continue à nourrir un débat scientifique très important. On va essayer d'être rapide et de dire l'essentiel. D'abord, se rappeler que l'analyse se fait toujours dans un contexte politique. Dans un contexte, qu'est-ce qui se passe, historique, etc. Ce qui s'est passé au moment de Tchernobyl, en 1986, c'est que il y avait encore le pouvoir soviétique, faut pas oublier, qui a mis le boisseau sur l'information qui pouvait surgir après l'accident, sur les conséquences sanitaires que cela avait. Sachant qu'il y avait beaucoup de médecins ukrainiens et biélorusses qui étaient de grande qualité, qui étaient formés à analyser la radiologie, etc. Oui. Mais on était dans un régime de censure. La deuxième chose, c'est que les États-Unis, de leur côté, étaient aussi n'avaient pas envie de jeter la lumière sur les conséquences. Pourquoi ? Parce que dans les années 80, 70 et 80, il y avait encore un énorme débat sur les essais nucléaires et sur les conséquences sur la santé des essais nucléaires qui, rappelez-vous, avaient été faits de manière absolument très nombreuse. Et troisième élément, il y avait deux organismes, l'Agence internationale pour l'énergie atomique et l'UNSCEAR, le comité scientifique des Nations Unies pour l'analyse de la radiologie, qui en fait avait été créé en 1955 et dans un but, on va simplifier, de promouvoir l'énergie nucléaire. Donc il y a eu, dès le début, une sorte d'accord de pouvoir pour limiter l'analyse des conséquences de l'accident.
Et vous dites-vous, les chiffres en termes de nombre de morts et de nombre de cancers ont été largement minorés justement par ces institutions ?
Oui, tout à fait. Et avec une évolution qui a été faite, c'est-à-dire que, on va dire rapidement à nouveau deux choses. Elles ont été minorées, mais peu à peu, un certain nombre d'officiels ont été amenés à dire oui, il y a eu des milliers de morts par cancer. Par exemple, le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique a fini par dire oui, il y a eu jusqu'à 9000 morts par cancer, etc. dans la longueur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un accident n'a pas un effet seulement instantané, mais a des effets très durables. Et puis par ailleurs, ce qui apparaît de plus en plus clairement, et notamment par un travail d'une historienne américaine, Kate Brown, mais qui connaît, qui travaille beaucoup sur les archives russes, c'est qu'on se rend compte en ressortant toutes les archives russes et aussi biélorusses et ukrainiennes, qu'il y a tout un savoir de ces savants qui montre aussi qu'il y a des effets sanitaires durables extrêmement importants.
Mais donc quand on entend ce que dit Hervé Kempf, Maxence Cordier, ça veut dire que quelque part dans les études pour les défenseurs du nucléaire, je veux dire comme ça, la balance bénéfice-risque est plus bénéfique en fait. Du coup, on sait qu'il y a un risque, mais il y a plus de bénéfices, c'est ce qu'on l'estime.
Oui, de toute façon, le nucléaire, c'est avec les énergies renouvelables des énergies qui ont un taux de létalité bien inférieur à celui des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles font moins peur parce qu'ils tuent en fonctionnement du fait de la pollution de l'air, de la pollution des sols, sans même parler du changement climatique. Mais ce qui a été dit avant était très intéressant. Trois accidents nucléaires, en fait, ça montre aussi les faits qu'il y a plusieurs nucléaires. Il y a plusieurs concepts de réacteurs, il y a plusieurs approches de sûreté. Tchernobyl, c'est quelque chose de vraiment à part. C'était un concept qui est de réacteur qui était instable dans certains niveaux de fonctionnement. Le réacteur a été construit en violation des normes soviétiques. L'accident est arrivé pendant un essai, dans la phase de fonctionnement instable par l'équipe, par une équipe qui n'avait pas été celle prévue pour faire cet essai. Enfin, il y a vraiment eu tout un cumul de défaillances à tous les niveaux. Fukushima, déjà, c'est un problème un peu différent. C'est un réacteur dans un pays occidental. Par contre, l'un des problèmes que ça montrait, c'était la collusion, enfin la proximité entre l'autorité de sûreté nucléaire japonaise et le ministère de l'industrie, qui faisait que l'autorité de sûreté japonaise était peu exigeante. Et déjà à l'époque, par exemple, donc l'explosion en Fukushima, c'est une explosion d'hydrogène. Déjà à l'époque, les réacteurs français étaient équipés de recombineurs d'hydrogène, ce qui permet d'éviter, en cas d'accident nucléaire, que de l'hydrogène puisse s'accumuler dans le bâtiment réacteur et exploser.
Et sur le fait qu'on ait minoré le nombre de morts et de malades aussi, qui vivent toujours d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, en Russie, qu'est-ce que vous répondez à ça, Maxence Cordier? Justement.
C'est très difficile à dire. En fait, Et bon, évidemment, l'URSS, c'était l'URSS. Après, il y a des études qui ont été menées par des équipes ukrainiennes, par des équipes biélorusses, par des équipes internationales aussi. Donc après, selon les études, les chiffres peuvent varier. C'est pour ça d'ailleurs que l'UNCR, qui est l'agence des Nations Unies, l'équivalent du GIEC en fait, pour étudier l'impact des rayonnements ionisants sur la santé, donne une fourchette de décès. Il donne pas un chiffre précis parce qu'il y a des incertitudes là-dessus.
Il y a aussi le coût des évacuations, parce que évidemment ces terrains ne sont plus habitables par les populations, et on verra ce qui se passerait en France justement. Vous évaluez ce scénario, Hervé Kempf, si un accident d'une telle ampleur survenait.
Qu'est-ce que ça T'étais folle déjà bien avant tout ça. C'était pas ta faute mais c'était celle des autres. J'aurais dû t'aider à soigner tes mots. On finira de haut commissariat. Je changerai pas quitter même si j'ai le choix. Juste une seule nuit bercée dans tes bras. C'est tout ce que je demande de toi. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris. Tout ça pour cette nuit. À deux dans le mosh pit. Au piano Yeezy. À deux dans le mosh pit. Au piano Yeezy. T'es que j'ai rien à voir. Vous avez l'avocat. Ils veulent tous être comme toi. C'est bien qu'ils ne peuvent pas. Mais ils veulent tous t'avoir. On n'a pas besoin de ça. On est très bien comme ça. Si on en a marre, un jour futur de se voir. Faudra prévoir une signature impair. Pas que le soir, on finisse dans les tracas. T'es mon territoire. Faut la se battre pour t'avoir. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris. Tout ça pour cette nuit. À deux dans le mosh pit. Au piano Yeezy. À deux dans le mosh pit. Au piano Yeezy.
The Yakuza.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Le nucléaire, pour ses défenseurs, il est aujourd'hui un allié incontournable dans la lutte contre le changement climatique. Voici l'entreprise Orano dans la Drôme. C'est là qu'est enrichi l'uranium.
C'est la matière qui est nécessaire pour faire fonctionner les centrales nucléaires, pour produire une énergie décarbonée au service des Français.
Seulement 6 grammes de CO2 le carbone par kilowattheure. C'est 7 grammes pour l'éolien, 55 grammes pour le solaire, sans parler de la production d'électricité par le pétrole ou pire, le charbon, plus d'un kilo. Le nucléaire, sauveur du climat, un argument aujourd'hui martelé par les acteurs de la filière.
Et c'est la question de ce dossier de la Terre au carré. France 3, en novembre 2021, on entendait la voix de Jean-Jacques Dreher, le directeur des opérations d'Orano, anciennement Areva, dont vous rappelez d'ailleurs Hervé Kempf, que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a été directeur. Et vous dites d'ailleurs qu'un travail patient de lobbying a opéré en France, justement, à préparer l'opinion sur ces questions.
Oui, tout à fait. L'industrie nucléaire est très fortement représentée dans ce qu'on appelle les élites françaises par les personnes qui sortent de Polytechnique et de l'École des Mines, et ils sont présents dans les grandes entreprises du nucléaire, mais aussi beaucoup dans les partis politiques ou des postes de direction. Et puis il y a aussi, depuis quelques années, un travail bien fait, au demeurant, quoique parfois très discutable, mais d'action sur les réseaux sociaux, de financer des youtubeurs ou de leur demander de faire des films favorables au nucléaire, etc. Donc c'est doublé. Et puis par ailleurs, un troisième travail de lobby qui est très important, notamment au niveau des instances européennes, par EDF, par d'autres acteurs du nucléaire, pour peser sur les choix européens notamment.
Maxence Cordier, on parlait d'événements majeurs comme Tchernobyl, Fukushima, Three Mile Island aux États-Unis. Est-ce qu'on a des scénarios qui évaluent justement la survenue d'un tel accident, d'une telle ampleur sur le territoire français?
Claude sur franceinter.fr nous écrit à ce sujet, s'en serait fini définitivement de la France et d'une grande partie de l'Europe. Alors, est-ce que Claude a raison ?
Alors non, déjà l'un des accidents, l'accident le pire qui soit arrivé, Tchernobyl n'a pas mis fin à l'Europe, n'a même pas mis fin à l'Ukraine. En fait, la sûreté, ça consiste en deux choses. C'est un, réduire le risque d'occurrence d'un accident, et deux, réduire l'impact d'un accident s'il intervient. Donc déjà, par principe, on part du principe qu'il peut y avoir un accident, et donc il y a tout un tas de mesures qui sont prises en compte pour pouvoir réduire l'impact de cet accident. Et ça, au fur et à mesure du temps, même sur les installations existantes, on rehausse le niveau de sûreté. Par exemple, actuellement, les EPR sont équipés d'un récupérateur de corium. Donc, si le cœur fond, ça lui permet de s'étaler dans le bâtiment en dessous pour se refroidir et d'éviter qu'il se retrouve dans la terre en dessous de la centrale. Les réacteurs anciens ont été adaptés en dessous du réacteur pour faire l'équivalent d'un récupérateur de corium.
Pardon, mais vous avez mentionné tout à l'heure une série de défaillances au sujet de Tchernobyl. Pourquoi il n'y aurait-il pas de défaillances, en l'occurrence, en France ?
Alors, comme je le disais, Tchernobyl, c'était un concept très différent, un concept qui était intrinsèquement peu sûr, qui n'a rien à voir avec les réacteurs qu'on exploite en France. Ça se rapprochait plutôt des réacteurs de première génération qu'on a arrêtés au début des années 90 en France.
Vous êtes en train de dire qu'en France, le risque zéro existe en fait ?
Non. Le risque ne peut jamais être nul. Ce que je dis, c'est que le risque n'est pas le même. Par exemple, en Arménie, vous avez une centrale, la centrale de Metsamor, qui présente un risque élevé. L'Union européenne essaie de la faire fermer depuis longtemps. Elle n'est pas dimensionnée par rapport à la sismicité du terrain. Il n'y a pas d'enceinte de confinement. Mais l'Arménie, c'est un pays pauvre, ils arrivent pas à, s'ils la ferment, ils peuvent pas la remplacer. Mais le nucléaire en France, c'est pas le même qu'en Arménie, c'est pas le même qu'en Russie, c'est pas le même qu'en Inde, qu'en Chine. Et donc, il faut prendre en compte ces spécificités. Il y a différents concepts de réacteurs, il y a différentes autorités de sûreté, il y en a certaines qui sont indépendantes.
Sauf qu'un accident majeur pourrait arriver en France. C'est pas exclu d'ailleurs, le président de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, le rappelait le 19 janvier dernier, hein, un accident nucléaire est toujours possible, ceux qui prétendraient le contraire prennent une grande responsabilité, l'accident majeur pourrait survenir en France.
Bien
sûr. C'est un paramètre.
Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les 10 ans, l'autorité de sûreté, quand elle organise les visites décennales pour pouvoir prolonger les réacteurs, demande un renforcement du niveau de sûreté, impose certains travaux pour réduire le risque d'accident, et puis pour pouvoir gérer l'accident s'il doit arriver.
Est-ce que du coup, la possibilité qu'il existe un tel accident doit être pris dans les réflexions pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, Maxence Cordier ? Est-ce que clairement c'est un facteur qu'il faut absolument intégrer ou pas ? Ou est-ce qu'il est négligeable ?
Disons qu'il faut mettre en parallèle tous les risques. En fait, il n'y a pas de source d'énergie qui n'a pas de risque. L'hydroélectricité, par exemple, si le barrage de Vouglans venait à céder, vous avez plusieurs mètres d'eau sur la place Bellecour à Lyon. Donc, des morts, il y en aura en pagaille. Et pourtant, on n'appelle pas à sortir de l'hydroélectricité. Là, on a un enjeu majeur qui est double. Réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique. Et c'est un enjeu extrêmement difficile. Sortir des fossiles, c'est difficile. Et pour l'instant, on échoue. Mmh. Et sortir des fossiles aussi parce que notre système économique et social repose sur ces fossiles. Que les réserves s'épuisent et que si on n'en sort pas de façon pilotée par de la sobriété, de l'efficacité et les alternatives, on en sortira par de la pauvreté, de la pénurie.
Hervé Kempf, un accident majeur en France, ça donne quoi concrètement sur le territoire, sur le coût, sur les populations évacuées ?
Ça a été étudié par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui a fait un premier rapport en 2007, qui a imaginé différents scénarios, dont celui de l'accident majeur, qui est par exemple celui qu'on a vu à Fukushima. Fukushima qui concerne des réacteurs tout à fait comparables à la technique PWR qu'on utilise en France. Et donc, ce que disait l'IRSN en 2007, c'est une contamination d'un territoire sur à peu près 30 000 km² qui reste contaminé pendant une longue période de temps, et c'est ça sur lequel qu'il faut bien avoir en tête dans la question de l'accident, c'est que c'est pas seulement une question combien de morts, combien de malades, combien de cancers, combien de maladies cardiovasculaires, mais aussi que pendant des dizaines d'années, on a une pollution des sols et les gens ne peuvent pas vivre. Encore à Fukushima, il y a près de 200 km² qui restent quasiment inhabitables et inhabités. Donc la grande crainte, ça serait un accident majeur ou grave, plus exactement en France, ça serait dans ce scénario de l'ordre de 20 000 à 30 000 km² contaminés, ça serait l'évacuation de 2,5 millions de personnes, oui. Et ça serait un coût. Alors une autre étude, l'IRSN a fait des études de coûts et ça conduirait à, dans le cas maximal, dans une fourchette allant à 450 milliards d'euros, c'est-à-dire pas loin de 20% du produit intérieur brut. Donc ouais. Ça signifie aussi une crise économique extrêmement importante.
Une image très dégradée pour le pays, puisqu'évidemment, du point de vue touristique, on viendrait moins dans un pays radioactif.
Alors voilà, par exemple, la France est un pays très touristique et vous n'avez pas très envie d'aller visiter je ne veux même pas donner d'endroit parce qu'on a peur de ça. Donc je ne vais même pas citer un lieu en France, mais oui, voilà. C'est, c'est le type
et
de
on imagine aussi des vents qui, comme à Fukushima, auraient pu aller sur une très grande ville, en l'occurrence Tokyo. Il y avait une très très grande inquiétude à l'époque sur Tokyo, et on imagine aussi des vents radioactifs sur de grandes villes françaises.
Hein. C'est même l'inconnu, c'est un des paramètres majeurs dans l'analyse des accidents, c'est où va le vent. Et si vous me permettez encore un mot, effectivement, la question qu'il y a eu à Fukushima et la chance qu'il y a eu à Fukushima, c'est que le vent a porté l'essentiel de radioactivité vers le Pacifique. Mais le premier ministre de l'époque, qui était M. Naoto Kan, que j'ai eu l'honneur, on va dire, d'interviewer, comme d'ailleurs d'autres journalistes, et m'a dit très clairement la crainte que j'ai eue pendant plusieurs jours.
C'était que le vent est du mauvais
c'est
côté.
Que le vent conduit sur la métropole de Tokyo et j'aurais dû être confronté à la décision d'évacuer une métropole de 40 millions d'habitants.
Donc avec Kempf, ce que vous nous dites, c'est tous ces paramètres, il faut les prendre en compte dans ce choix aujourd'hui qui est fait par rapport à la crise climatique, justement.
C'est absolument indispensable.
Maxence Cordier, juste pour répondre rapidement, on aura le temps de discuter ensuite dans la seconde partie.
Alors, le réacteur à Fukushima, c'était pas le même type de réacteur que ce qu'on a en France. Par exemple, les barres de commande passent par le bas du réacteur, ce qui fait que le bas de la cuve est fragilisé d'une certaine manière. Donc ça a favorisé le fait que le corium puisse s'écouler. Si on prend un réacteur à eau pressurisée, donc du type de ce qui est exploité en France, Three Mile Island, une partie du cœur a fondu, le cœur est resté dans la cuve. Et donc tout l'enjeu aussi en cas d'accident nucléaire, c'est de confiner cette matière. Effectivement, le cœur peut fondre dans certaines conditions. Par contre, il faut que ça reste dans la cuve, sinon dans le bâtiment réacteur, c'est pour ça qu'il y a une enceinte de confinement aussi.
Et à ceux qui voudraient savoir à quoi ressemblerait un accident majeur, je signale la BD coécrite par Jean-François Julliard, le directeur de Greenpeace France, et Alizée Depin aux éditions du Faubourg, qui s'appelle Accident majeur.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions, elles sont nombreuses sur le site de La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
On passe au vert à 14h32, Camille Cronier.
Et il ne vous aura pas échappé que le week-end de Pâques approche, vu le nombre d'œufs, poules, lapins et autres petits poissons en chocolat qui nous entourent, dès qu'on met le pied dans un magasin. Et ce chocolat, quand il n'est pas contaminé au salmonelle, savez-vous ce qu'il contient, d'où il vient, comment le cacao est cultivé ? Non, et c'est malheureusement presque normal. Écoutez Yann Laurence, le directeur biodiversité du WWF France.
C'est très difficile de dire ce chocolat-là, celui qui est sur votre table à tel moment, il a été produit dans telles conditions, garanties, etc. Parce que tout ça est globalisé dans une énorme machine, on pourrait dire, un énorme système de transformation qui mélange tout ça.
Et oui, au tout départ, il y a des fèves de cacao, mais la structuration de la filière la rend totalement opaque.
C'est une filière qui a énormément de tout petits producteurs, 5 millions à peu près, et puis des dizaines de millions de consommateurs, et entre les deux, quelques grosses entreprises qui transforment tout ça.
Et passe donc sous silence, je parle des Nestlé, Mars, Ferrero, Mondelez, etc. Les confiseries représentant 90% du chocolat consommé dans le monde. Passe sous silence donc les conditions catastrophiques dans lesquelles est cultivé le cacao, aussi bien en termes social et humain, environnemental. Le plus gros producteur au monde, ce n'est pas l'Amérique du Sud, où est pourtant apparu le cacao comme nourriture, mais aussi monnaie d'échange il y a 4 siècles, non. C'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire, 46% des 4,8 millions de tonnes annuelles. Côte d'Ivoire où travaille François Ruff, économiste au CIRAD, spécialiste des stratégies des planteurs de cacao, et il est clair.
Le cacao, c'est l'histoire de la déforestation.
Pourquoi ? Parce que le cacaoyer a besoin de sols très fertiles, et c'est dans les forêts tropicales qu'on trouve les meilleurs sol. Donc, on coupe pour faire plein soleil sur la plante qui produit à fond et hop, quand c'est terminé, on change en trouvant une autre parcelle et rebelote. Résultat, en Côte d'Ivoire, il n'y a presque plus de forêt et le responsable est tout trouvé pour François Ruff.
Oui, à 80%, c'est le cacao. L'industrie du chocolat essaye de faire croire d'autres choses en disant oui, mais il y a aussi l'EVA, il y a aussi le palmier, il y a l'industrie du bois, bien sûr. Mais l'EVA et le palmier, c'est pas vrai. Ils viennent d'ailleurs souvent en remplacement des vieilles cacaoyères et des vieilles caféières. Donc c'est surtout le cacao et un peu le café.
Confirmation de Yann Laurence au WWF, auteur également de plusieurs études sur le cacao avec un chiffre au niveau mondial cette fois.
On dit qu'en 15 ans, le cacao à lui seul est responsable de plus de 2 millions d'hectares de déforestation. Aujourd'hui, la filière cacao, effectivement, globalement, elle est très problématique parce que elle se fait beaucoup au détriment des écosystèmes en faisant travailler les enfants. Rien qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana, je crois qu'il y a 1,5 million d'enfants au travail. C'est une filière qui est encore aujourd'hui très loin d'être irréprochable.
Et là, je sais que vous m'en voulez parce que je vous casse votre petit plaisir que je partage, rassurez-vous. Donc moi aussi, j'ai les nerfs, pour être clair. Donc j'ai contacté le directeur de l'ONG Chantre du commerce équitable, Max Avelard France, Blaise Desbordes, pour savoir comment comment trouver un chocolat un peu correct, on va dire.
Les certifications, c'est à peine 5% du marché des 350 000 tonnes de produits chocolatés français l'année dernière. C'est absolument inacceptable, en fait, d'imaginer que 95% des produits qui sont des produits plaisir quotidien, enfin pour nous tous, je me mets dedans, hein, que 95% n'est pas de garantie minimum en 2022.
Exemple chiffré, sur les 7,3 kilos de chocolat qu'on mange chaque année en France, 330 grammes, donc le 3 derrière la virgule du 7 kg 3, on est d'accord? 330 grammes sont Max Havelaar, par exemple, avec en plus des trous dans la raquette soulignés par le WWF.
Le commerce équitable ne veut pas dire que c'est bio, et ni le bio ni le commerce équitable ne veut pas dire que c'est sans déforestation aujourd'hui.
De quoi s'arracher les cheveux, n'est-ce pas? En tout cas, se demander si la solution serait donc peut-être d'arrêter de manger du chocolat.
Non mais ça va pas,
Yann
non.
Laurence nous rassure.
Mangez-en moins, mais mangez-en mieux. Il faut qu'on fasse un peu confiance aux labels, même s'ils ne sont pas parfaits, pour qu'ils aient le pouvoir de marcher, et qu'ils aient le pouvoir d'imposer des exigences intéressantes aux producteurs.
Et aux multinationales, parce que le directeur de Max Havelaar ne veut pas qu'on se trompe de cible.
C'est la pauvreté qui fait ça. Ce n'est pas que les producteurs méprisent la forêt, bien sûr que non, et que nous, à Paris, on veut la sauver.
Le problème pour lui, c'est le prix que touchent les producteurs de cacao. 7 centimes sur une tablette, ça ne permet pas de rénover les cacaoyers. Donc, comme je le disais, une fois que la parcelle a produit, on recommence ailleurs, cercle vicieux. Mais aujourd'hui, les entreprises sont frileuses pour augmenter ce prix.
Si vous sortez du bois, vous dites « moi, j'en peux plus d'acheter des fèves à des prix de misère », ok, très bien, vous le faites. Et qu'est-ce qui se passe si vous vendez pas vos tablettes? Si vous sortez trop cher, voyez, et que du coup, vos concurrents qui mettent du sucre en veux-tu, en voilà, qui sortent des produits low cost au niveau social et environnemental, eh ben, ils vont arriver avec la palette de promotion à l'entrée du supermarché et ils vont vous casser les reins, quoi.
Et pour François Ruff, en Côte d'Ivoire, augmenter les prix, de toute façon, ne suffirait pas. Faudrait aussi protéger les forêts en parallèle. Bref, bloquer les accès. Un système, donc, en fait, à totalement déstructuré et pour lesquels le chercheur voit deux responsables.
L'État, qui a laissé faire ou encouragé. Et puis, il y a une responsabilité des multinationales, pour pas les appeler autrement, qui tiennent des discours parfois mensongers, hein. J'insiste sur le mot, hein. En prétendant qu'ils militent pour un cacao zéro déforestation, un cacao durable, etc. Et qui, dans leur pratique, font très peu dans ce sens. Tout ça, c'est du baratin, parce que c'est impossible à tracer.
Attention donc aussi aux auto-labels, hein. Évitez donc les géants industriels. Regardez l'origine, Pérou ou Équateur par exemple, c'est mieux. Et attendons tous de voir si les directives européennes dans les tiroirs et l'initiative française cacao durable sont efficaces. D'ici là, remerciez-moi, puisque l'orgie de chocolat ce week-end sera peut-être un petit peu moins grosse que prévu.
Merci beaucoup, Camille Cronier, un peu rabat-joie aujourd'hui dans Camille passe au vert. On le réécoute quand même sur franceinter.fr.
Hervé Kempf, Maxence Cordier, vous allez manger du chocolat
un petit peu,
vous
ouais.
Faites attention à ce que vous mangez comme chocolat.
Oui, tout à fait, et vous l'avez très bien présenté les choses.
Donc raisonnablement, Maxence Cordier.
Pareil, j'en mange peu.
Ouais.
Mais vous regardez, vous arrivez à savoir ce que vous mangez quand même comme chocolat ou... C'est difficile.
Oui, avec les labels, ouais.
Mais attention aux labels, justement, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. On n'a pas répondu à la question de notre auditrice tout à l'heure sur le répondeur sur les chauffe-eau solaires, Maxence Cordier, cette auditrice-là qui râlait, Michel, qui disait on n'en parle pas assez, c'est une solution super, c'est facile, c'est simple, et personne l'évoque. Qu'est-ce que vous lui répondez alors?
Eh bien, je lui réponds qu'elle a
Michel,
raison.
Michel, elle a raison.
Mais Michel a raison. Le problème, c'est que le débat est complètement phagocyté par l'opposition nucléaire renouvelable avec les tenants de l'un, les tenants de l'autre, mais on oublie que l'enjeu premier, c'est de sortir des combustibles fossiles et qu'il faut il va falloir mobiliser toutes les énergies alternatives pour ça, et notamment les énergies thermiques dont on parle très peu, le solaire thermique, la biomasse dans certaines conditions, il faut faire attention, les pompes à chaleur, la géothermie, etc. Ce sont des éléments de solution importants.
Donc le chauffe-eau solaire fait partie de tout ça, Hervé, hein.
Oui, tout à fait. En deux mots, oui. Là, je suis d'accord avec ce que vient de dire Maxence Cordier. Sauf sur un mot. En tout cas, je peux dire autre chose. Mais que pour compléter ce que vous venez de dire qui est vrai, en dehors de la partie nucléaire, à mon avis, il faut s'en passer. Il faut absolument sortir des fossiles. On est d'accord là-dessus. Il faut absolument se fixer comme objectif de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Il faut jouer de tout ce que vous avez signalé et d'autres choses. Et puis, il faut réduire la consommation d'énergie. C'est un enjeu absolument essentiel.
On en parlera tout à l'heure. C'est un pan évidemment important. Mais sur ce dossier climat et nucléaire, il faut aborder évidemment le vieillissement du parc nucléaire et la temporalité entre la crise nucléaire aussi et les prochains EPR.
Rock avec The Smile à l'instant.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Bonjour, c'est Delphine de Nancy. Je pense qu'il faudrait qu'on parle du refroidissement des centrales nucléaires et des conflits d'usage de l'eau que ça va créer avec la baisse drastique du niveau des lacs. Voilà, ça va être dramatique.
Merci pour votre question. Hervé Kempf, Maxence Cordier sont avec nous donc pour nous parler nucléaire et climat. Maxence Cordier, est-ce que le réchauffement climatique en lui-même et les effets, par exemple la montée de l'eau, on entendait parler tout à l'heure, l'assèchement, les sécheresses, tout ça, ça peut jouer aussi sur le fonctionnement même des centrales?
Il y a deux questions, les centrales existantes et les éventuelles futures centrales. Les centrales existantes, de toute façon, elles s'arrêteront aux alentours des années 50. Donc, le changement climatique restera quand même, malgré tout, limité à cet horizon de temps. Ce qui peut se passer, c'est ce qu'on constate déjà actuellement, une baisse de puissance l'été, voire l'arrêt de certains réacteurs, non pas pour des raisons de sûreté, ça on peut continuer sans problème à les exploiter, mais pour des raisons de biodiversité, parce que justement, les rejets thermiques, les rejets de chaleur dans les cours d'eau sont limités. Donc, en été, pendant les canicules, sur certains cours d'eau, les rejets sont limités. Par contre, vu que la demande électrique est bien plus faible, ça pose pas de problème. Par contre, pour les nouveaux réacteurs, là, c'est évidemment quelque chose qui est pris en compte, et on peut anticiper la montée des eaux. Si on part du principe qu'il y aura X mètres de montée des eaux à tel horizon, il faut prendre ça en compte dans les plans.
Mais pardon, mais l'auditrice, en gros, elle disait, voilà, faut de l'eau pour refroidir les réacteurs. Il y a de moins en moins d'eau, les nappes s'assèchent. Hervé Kempf, en gros, est-ce qu'on pourra avoir assez d'eau pour les réacteurs aussi?
À ma connaissance, elle a raison de poser cette question. Ce que vous disiez était exact en partie. Il y a l'enjeu du réchauffement de l'eau, parce qu'un réacteur nucléaire prend de l'eau pour refroidir et ensuite rejette l'eau relativement réchauffée. Et donc, ça a un effet sur la biodiversité locale, vous l'avez très bien dit. Mais il y a aussi un enjeu. Est-ce qu'il y aura assez d'eau dans les rivières pour refroidir les centrales? Il est déjà arrivé que des réacteurs doivent être mis à l'arrêt parce qu'ils ne pouvaient pas prendre suffisamment d'eau. Une des demandes d'ailleurs qui vient d'être faite par les autorités américaines aux opérateurs américains en leur disant « Attendez, vous voulez prolonger le fonctionnement de vos centrales, on veut d'abord vérifier que par rapport aux effets éventuels du changement climatique, vous soyez totalement sûrs. » Donc c'est un vrai enjeu et l'auditrice a absolument raison de poser cette question.
Maxence Cordier, une question cruciale, c'est celle du calendrier entre la volonté de neutralité carbone à l'horizon 2050, déjà 55% pour 2030. Est-ce qu'avec un parc nucléaire vieillissant et des nouveaux EPR qui vont demander beaucoup de temps et qui ne seront pas prêts pour probablement avant 2037, est-ce qu'on peut répondre à l'urgence climatique aujourd'hui ?
Alors, il n'y a pas qu'un seul outil, il va falloir à la fois les énergies renouvelables, du nucléaire et de efficacité et sobriété. Après, le parc nucléaire actuel, de toute façon, n'est pas éternel, donc il va falloir le remplacer. Il y a des réacteurs actuellement exploités qui seront arrêtés en 2040, 2050, 2060. Bah, ces réacteurs-là devront être remplacés. Donc,
mais là, il y a un trou, justement,
les EPR,
entre les vieux et les nouveaux. Là.
Effectivement, l'une des difficultés qu'on voit actuellement, c'est que pendant 20 ans, on a très peu investi, on n'a pas avancé, donc maintenant, il n'y a pas de miracle. Quand on regarde les scénarios que RTE a présenté en octobre, tous les scénarios vont être extrêmement difficiles à suivre parce que il va falloir rattraper le retard et ça va être loin d'être évident. Mais c'est valable pour le nucléaire, pour l'efficacité énergétique, pour les renouvelables, pour la flexibilité de la demande, pour le stockage, etc.
Il y a combien de centrales nucléaires aujourd'hui en France?
56 réacteurs.
Et Jean-Jacques demande sur franceinter.fr combien seront nécessaires en France toujours pour remplacer les énergies fossiles et assurer notre indépendance relative, on va dire.
Ça dépend. Il n'y a pas de chiffre précis. On peut envisager différentes choses. Ce que RTE propose, c'est donc dans les scénarios avec le plus de nucléaire, ça va monter jusqu'à 14 EPR avec quelques SMR en plus.
SMR,
ce sont des petits réacteurs modulaires. Donc ça, c'est le scénario avec le plus de
nucléaire.
Le plus de nucléaire. Mais dans tous les cas, il va falloir aussi développer l'éolien, à terre, en mer, le solaire photovoltaïque.
Mais tout ce que vous dites, c'est entre guillemets dans le meilleur des mondes, en tout cas de votre point de vue et des pro-nucléaires. Hervé Kempf, aujourd'hui, il y a plusieurs réacteurs qui sont à l'arrêt, il y a plusieurs centrales qui sont à l'arrêt pour des problèmes notamment de corrosion. Est-ce que du coup, c'est envisageable finalement que même si on misait sur le nucléaire, ça puisse pallier les besoins en énergie?
Alors, il faut que toutes les perspectives et même les scénarios les plus nucléarisés de l'étude de RTE qui s'appelle Réseau Transport d'électricité ne prévoient certainement pas qu'il y aura autant de réacteurs et autant de parts du nucléaire dans le bilan électrique global que c'est le cas aujourd'hui. Donc de toute façon, il y aura besoin d'énormément d'autres choses et notamment de renouvelables. Après, la deuxième question, c'est est-ce que c'est réaliste d'imaginer un fort développement du nucléaire? Alors, la réponse, Mais d'autres personnes diraient auraient une présentation différente de la mienne. Mais d'après toutes les études que j'ai lues et ce que dit RTE,
c'est clairement pas le cas dans le monde entier.
Ça n'est pas le cas dans le monde entier. Quasiment tous les autres pays, sauf les pays dictatures et autoritaires comme la Russie et la Chine,
sont
tous
sur une pente déclinante.
Laissent finir sur le nucléaire et développent massivement les énergies renouvelables. Dans le cas français, un scénario nucléariste suppose un certain nombre de conditions. Un, on ne prend pas en compte l'éventualité de l'accident dans le coup, ce qui est quand même problématique. Deux, on fait des hypothèses assez optimistes pour le démarrage des EPR, des nouveaux EPR. En fait, c'est déjà repoussé à 2037 alors qu'ils prenaient comme hypothèse 2035 et on ne sait pas si ça sera possible. Trois, tout repose sur l'idée que le taux d'intérêt, c'est un peu technique, mais que le taux d'intérêt soit le même pour toutes les énergies. Or, comme le nucléaire est très lourd en investissement et quand même très dangereux, les investisseurs n'aiment pas trop aller sur le nucléaire, ils préfèrent investir sur le renouvelable. Donc, c'est assez peu probable que le nucléaire puisse se développer rapidement.
Cordier, l'exemple de l'EPR de Flamanville, le retard, les coûts stratosphériques, est-ce qu'on en a tiré des enseignements qui pourraient justement nous faire éviter un retard de ces futurs EPR, là ou pas?
Alors, avant de répondre à cette question, il n'y a pas que des dictatures qui développent le nucléaire. Le Royaume-Uni, qui vient d'annoncer viser 24 gigawatts de nucléaire, soit x3 par rapport à leur paquet actuel, n'est pas une dictature. Les Pays-Bas qui prévoient de construire deux centrales nucléaires ne sont pas des dictatures. La Finlande, qui en construit une et qui en prévoit une deuxième, n'est pas une dictature. La République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, etc. Sur le PR, je pense qu'il faut être clair. Le PR de Flamanville a été un échec industriel. Ça, bon, c'est...
Est-ce qu'on va pas le reproduire, cet échec?
Déjà, les constructions d'EPR à Taishan, en Chine, se sont beaucoup mieux passées. C'était construit en 10 ans. Et pour l'instant, le chantier d'Hinkley Point au Royaume-Uni se passe bien. Alors, on parle beaucoup des retards d'Hinkley Point. Les seuls retards qu'il y a eu pour l'instant, ce sont des retards de négociation. La négociation entre EDF et le gouvernement britannique était très longue. Mais le chantier a commencé en 2016. La mise en service était prévue pour 2025. Et ils ont pris pour l'instant qu'un an de retard du fait du Covid. Mais ça, ça s'explique.
Donc, clairement, pour vous, ça veut dire qu'on est dans le calendrier de la neutralité carbone 2050, clairement, avec le nucléaire ou pas?
On n'aura pas décarboné ni la France ni le monde en 2035. En fait, il faut vraiment avoir conscience de la place absolument phénoménale que les combustibles fossiles ont. Donc oui, on aura encore besoin d'électricité bas carbone, de construire de nouveaux équipements d'électricité bas carbone en 2035, 40, 50, 60, 70. Et donc là, oui, il y a une place pour le nucléaire.
On a pas mal de questions sur une autre problématique posée par le nucléaire. Hervé Kempf, Marie ou Bernard, par exemple, qui nous disent pourquoi est-ce qu'on parle des dangers, mais pas assez des déchets. Les déchets nucléaires, c'est une problématique aussi.
Énorme, mais je crois que dans cette émission, on ne peut pas parler de tout. Et je crois que Mathieu Vidard a choisi d'axer sur un certain nombre de points. Donc je ne veux pas...
Non, mais les déchets,
je peux parler des déchets, mais je suis obligé d'accabler encore.
Les déchets, on va dire sur le volet pollution, alors que là, on est plus axé sur le climat.
Mais... En fait, en plus, le cas français... Mais je voudrais quand même revenir un point très important sur la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne... À ce projet, Boris Johnson l'a engagé il y a quelques jours et ça a été relayé par reporter. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ils engagent le nucléaire, mais Monsieur Boris Johnson refuse de faire une vraie politique de rénovation énergétique. Et par ailleurs, dans le même temps où il dit on va faire du nucléaire, il relance de l'exploitation pétrolière en mer du Nord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un gouvernement qui veut développer le nucléaire est pas vraiment préoccupé par le climat, parce qu'en même temps, il travaille pas sur la rénovation énergétique et il continue à vouloir exploiter du pétrole.
Sur la question des déchets.
En deux mots, on est en plus en France, pour des raisons compliquées, mais qui sont liées au nucléaire militaire qu'il faut jamais oublier dans cette affaire, on a une filière particulièrement compliquée, c'est-à-dire qu'alors que dans tous les autres pays, États-Unis, Allemagne, Scandinavie, qui utilisent encore le nucléaire, on prend le combustible usé du réacteur et on va chercher une solution. Les Français ont inventé ou utilisent une procédure plus compliquée, c'est qu'ils vont prendre le combustible, ils vont l'envoyer dans une usine qui est à La Hague, ils vont faire plein de traitements chimiques et ils vont séparer une partie des déchets, ils vont avoir les actinides mineurs, ils vont avoir du plutonium. Et donc on se retrouve en fait avec quatre catégories de déchets au lieu d'une seule. Ça c'est la première complication. L'usine de La Hague est en très mauvais état. Une autre usine qui mélange du plutonium et de l'uranium, l'usine Mellox, fonctionne aussi très mal et ça inquiète beaucoup l'autorité de sûreté nucléaire. Monsieur Doruzuk en a parlé. Et troisième point, on ne sait pas quoi en faire, c'est-à-dire que le projet CIGEO est même si à Bure, en Meuse, tout à fait, et a beaucoup de problèmes techniques, au sens l'autorité environnementale, notamment l'IRSN, trouve qu'un certain nombre de points ne sont pas réglés, et donc on ne peut pas affirmer qu'on a une solution pour les déchets aujourd'hui.
Maxence Cordier, il y a un point intéressant sur la sûreté justement du nucléaire dans l'article de Reporter, c'est de dire que c'est une énergie qui s'utilise en temps de paix, finalement, dans des démocraties paisibles, avec des sociétés paisibles. Est-ce que finalement, aujourd'hui, toutes les tensions internationales ne nous font pas aussi réfléchir à cette question de la sûreté au regard de toutes les crispations de nos voisins, par exemple.
Parce qu'il y a eu quelques sueurs froides, là, il y a quelques semaines, encore en Ukraine hein.
Oui, après, l'Ukraine, c'est pas non plus la France. La situation géopolitique n'est pas la même. En fait, les menaces sont pas les mêmes. Et après, dans tous les pays, on a de nombreuses industries qui sont dangereuses. Toutes les industries chimiques, les raffineries, les barrages hydroélectriques. On vit avec le risque à côté. Tout l'enjeu, en fait, c'est de réduire ce risque en imposant des normes, en assurant le contrôle de ces normes. Mais on ne peut pas supprimer le risque. Moi, ce que je trouverais vraiment problématique, c'est de se dire, je ne supporte pas du tout le risque dans telle industrie, sans regarder les risques à côté. Et les combustibles fossiles, dont on échoue encore lamentablement aujourd'hui à sortir, présentent un risque existentiel pour l'avenir de l'humanité. Donc sortons des combustibles fossiles, une fois qu'on en sera sorti, si on veut sortir du nucléaire, moi j'ai pas de problème avec ça.
Les deux candidats finalistes à la présidentielle sont tous les deux pour le développement du nucléaire, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre qu'il faudrait mettre cette question, la soumettre par référendum à la population française? Est-ce que ça pourrait être une solution?
Je crois que oui, ça avait d'ailleurs été proposé par un autre candidat à l'élection présidentielle, au premier tour, Monsieur Mélenchon, me semble-t-il. Je crois qu'au bout d'un moment, c'est nécessaire, mais il faudrait absolument que l'information soit ouverte, que l'on puisse vraiment jouer à loyauté sur l'information. Mais au bout d'un moment, peut-être qu'il faut y arriver plutôt que... Enfin voilà.
Maxence Cordier, il faut consulter la population sur ces questions, à votre avis?
Alors l'information est ouverte, notamment depuis la loi Transparence de 2006. Tout est accessible sur le site de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, sur le site de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Donc il y a énormément d'informations dès qu'il y a la moindre anomalie dans une centrale. Après, moi, je suis pas favorable au référendum parce que si on demande à la population si elle est pour ou contre les combustibles fossiles, les éoliennes, le nucléaire, etc. On peut très bien se retrouver avec non, 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 mais je veux de l'électricité. Et ça, c'est pas possible. Le problème, c'est que les gens ne font pas forcément le lien entre les différents moyens, le besoin de chaque moyen et le service qu'ils veulent en face. Gouverner par référendum, c'est pas, à mon sens, un moyen de protéger la démocratie. Il faut que démocratiquement, on fixe des objectifs ensemble, par exemple sur la décarbonation, sur le coût de l'énergie, sur le degré d'indépendance énergétique, etc. Après, si on fixe par vote les moyens d'y parvenir, vu que chacun va pas être capable de faire des calculs très élaborés dans son coin, on ne pourra pas y arriver. C'est ce qui s'est passé un peu en Allemagne, par exemple.
Allez, d'autres questions des auditeurs, Camille.
Christophe voudrait savoir quel est le coût du démantèlement d'une centrale et au bout de combien de temps les lieux deviennent réhabitables. Est-ce qu'on sait ça, Hervé Kempf?
Oui, il y a très peu d'expériences en cours. Il y a un cas aux États-Unis qui a été clairement démantelé. Il y a très peu d'autres cas qui ont été faits. Les estimations varient. Par exemple, EDF a provisionné de l'ordre de 500 millions d'euros et la norme internationale serait plutôt de dire 1 milliard d'euros. Mais je voudrais, si vous me permettez, rebondir sur un point qui est vraiment important parce que il faut pas... Alors d'abord, le référendum, ok, c'est une conception de la démocratie, je vous la laisse. Moi, je pense qu'un débat bien informé, les citoyennes et les citoyens d'un n'importe quel pays peuvent comprendre une situation et faire leur choix. Et on l'a vu par exemple avec la Convention citoyenne pour le climat, qui est un exemple parmi d'autres. Le problème, c'est qu'on n'a pas respecté ce qu'il proposait, qui était extrêmement rationnel et serein et sage. Deuxième point, la question, on est tous d'accord pour sortir du fossile. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Par exemple, à Reporter, on fait cette enquête sur le nucléaire, mais parce qu'on est préoccupé du climat. Et il faut absolument, à l'échéance de temps d'une dizaine d'années, réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, à court terme, le moyen de le faire, c'est de réduire les émissions, de réduire les consommations.
La sobriété, donc
oui,
quelque part.
Il serait beaucoup plus urgent de faire, parce que on peut discuter l'EPR en 2030, en 2040, en 2050. La question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Est-ce qu'on peut faire maintenant? Je vais juste donner un exemple, mais il y en aurait 15 autres. Bah, c'est la rénovation thermique qui suppose une politique publique.
Des bâtiments, hein.
Qui a un coût des bâtiments, qui a un coût que les experts savent faire, qui crée de l'emploi local et qui aura un effet extrêmement rapide et aussi un effet social sur les gens.
Vous citez plein d'exemples dans l'article, diminution de la taille des des logements, l'arrêt de la construction d'autoroutes, la promotion du train, le développement du vélo, de la marche à pied, l'étalement urbain, limiter l'alimentation transformée, la consommation de viande, tout ça, c'est des pistes.
C'est un programme présidentiel.
Ça, c'est de la sobriété. Pour le coup, c'est un point que vous partagez tous les deux, hein, Maxence Cordier. Hein. C'est-à-dire que finalement, on peut pas imaginer décarboner sans passer par la sobriété.
Oui, tout à fait. Encore une fois, plus de 60% de l'énergie consommée au sein des frontières françaises, ce sont des combustibles fossiles. Et la France est encore plus dépendante des combustibles fossiles via tout ce qu'on importe. Les micros avec lesquels on parle, les ordinateurs devant nous, etc. ont été fabriqués, non pas en France, mais à l'étranger, avec des matières extraites à l'étranger au charbon et au pétrole, transformées grâce au charbon, importées grâce au pétrole. Donc ça, on a le seul moyen qu'on a vraiment de réduire cette empreinte-là, c'est relocaliser une partie de l'industrie et faire des gros efforts de changement de consommation, réparer davantage, recycler et moins consommer.
Pardon, on n'a juste pas répondu à la question de Christophe. La deuxième partie, au bout de combien de temps les lieux deviennent réhabitables?
On a plusieurs expériences de démantèlement. Il y a plusieurs réacteurs, dont celui de Manyanki aux États-Unis qui ont été démantelés. C'est copie de Fessenheim. EDF finalise le démantèlement d'un réacteur repressurisé à chaud dans les Ardennes, dont le démantèlement devrait être fini en 2024. Et le CEA a démantelé plusieurs réacteurs expérimentaux complètement. Donc, par exemple, le site de Grenoble, il y avait plusieurs réacteurs. Maintenant, c'est déclassé. Il n'y a plus rien.
C'est Maxence Cordier, le nucléaire, c'est bon pour le climat, pour vous?
Je pense que c'est indispensable. C'est un outil parmi d'autres, mais c'est indispensable.
Hervé Kempf, le nucléaire, c'est bon pour le climat pour vous?
Non, il vaudrait mieux utiliser l'argent qu'on veut investir dans le nucléaire, l'investir dans des économies d'énergie et dans des énergies renouvelables respectueuses de l'environnement.
Merci beaucoup. Série d'articles passionnants à partir d'aujourd'hui sur reporter.net, le quotidien de l'écologie. 5 articles pour vos lecteurs. Et puis Maxence Cordier, demain sortira Énergie, c'est aux éditions Tana. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.